Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Madagascar, environ 2000 partisans de l'opposition malgache se sont rassemblés ce mercredi devant la Cour constitutionnelle à Antananarivo, la capitale, pour exiger la démission du président Ir Ratsoramampiane, cible d'une fronde politique à quelques mois des élections. Saint-Louis-le-Richard, pour couleur vert, rouge et blanc de Madagascar, plusieurs députés sont sortis de la foule pour déposer au tribunal une requête en destitution du chef de l'État. Le droit de déposer une demande de destitution est un pouvoir accordé par la Constitution aux députés, a affirmé l'une des parlementaires. Une fois la requête déposée, les manifestants sont repartis vers la place du 13 mai, théâtre de tous les grands rassemblements politiques de l'histoire récente de la Grande Île. À 7 mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition occupe les rues de la capitale depuis samedi pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au seul gouvernement. Égypte, 3 soldats et 30 djihadistes sont morts au cours de la semaine dernière dans les opérations militaires dans le centre et le nord du Sinaï. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'armée égyptienne. Les forces armées mènent depuis le 9 février une vaste opération anti-djihadiste baptisée Sinaï 2018, alors que cette région proche de la frontière israélienne est le théâtre d'une insurrection du groupe État islamique. Parmi les 30 djihadistes tués figure l'émir de l'organisation terroriste du centre du Sinaï, Nasser Abou Zakoul, a précisé l'armée dans un communiqué. Sa mort avait déjà été annoncée la semaine dernière. Crise migratoire en Israël. Le gouvernement renonce à son plan d'expulsion de migrants africains entrés illégalement dans l'État hébreu. Tel Aviv n'a trouvé aucun pays prêt à les accueillir. Abdourahman Diab.
Le conseiller légal du gouvernement israélien a informé la Cour suprême de l'abandon du projet d'expulsion, citant le refus de certains pays tiers d'accueillir les migrants. Les pays en question n'ont pas été précisés, mais le Rwanda et l'Ouganda avaient été largement cités comme étant les pays avec lesquels Israël avait négocié pour l'accueil des migrants expulsés. Ces expulsions visaient une partie des 42 000 migrants d'origine érythréenne et soudanaise vivant illégalement en Israël. Ce plan avait suscité de nombreuses critiques, notamment du HCR, de survivants de l'Holocauste et d'une partie de la société civile en Israël. Le gouvernement avait proposé 3 500 $ à chaque migrant qui accepterait de quitter Israël volontairement ou risquer d'aller en prison. Début avril, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé un autre programme, assurant qu'un accord avec l'ONU allait permettre de transférer les migrants vers des pays comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie. Ces pays avaient assuré ne pas être au courant, contraignant Netanyahou à en volte-face et à l'annulation quelques heures plus tard de cet accord.
Au Nigeria, poursuite des violences dans le centre du pays, 2 prêtres catholiques et 16 fidèles y ont été tués mardi dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs musulmans. Le point avec Marie Benson.
Une 30aine d'hommes armés ont attaqué mardi matin le village de Mbalom pendant une cérémonie de funérailles. 16 corps de fidèles ont été découverts, et ceux de 2 prêtres dans une église. Terhemen Nangor, un habitant de Mbalom, affirme que les gens, dans un vent de panique, ont commencé à courir et à crier. Une 20aine d'entre eux ont été abattus de sang-froid, et les assaillants ont ensuite pillé le village avant de prendre la fuite. À Makourdi, un village voisin, des centaines de jeunes ont protesté contre cette tuerie. La police est intervenue avec du gaz lacrymogène pour les disperser. Le président Muhammadu Buhari a condamné un crime odieux, promettant de traduire en justice les auteurs. La région est le théâtre d'attaques meurtrières récurrentes. Agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades se disputent l'accès à l'eau et à la terre. Selon plusieurs ONG, ce conflit en 2016 a fait 175 000 déplacés et plus de 2 500 morts.
Burkina Faso, le tribunal de Djibo dans le nord du pays frontalier du Mali est fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité. L'administration pointe du doigt le risque encouru par les magistrats dans cette zone en proie à des attaques récurrentes des djihadistes. Plus de détails avec Irénée Herman Mbo.
C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue lundi soir que les acteurs judiciaires ont décidé de suspendre toute activité pour des raisons de sécurité. Depuis hier, tous les fonctionnaires du tribunal de Djibo ont rejoint Ouagadougou pour fuir l'insécurité et les persécutions dont ils font l'objet de la part des djihadistes dans cette zone frontalière au Mali. Si des mesures ne sont pas prises, nous ne rejoindrons pas nos postes à l'ancien magistrat qui a requis l'anonymat. Rodrigue Bayala, secrétaire général du syndicat des avocats, déplore une situation vraiment triste, appelant le gouvernement à prendre des dispositions pour que leur sécurité soit assurée et que le palais de justice puisse rouvrir dans les prochains jours. Le nord du Burkina est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015 qui ont fait, selon un bilan officiel, 133 morts dans au moins 80 attaques. Les habitants de la zone vivent dans la psychose des attaques qui ont déjà causé la mort de plusieurs civils. Sous-équipées, les forces de sécurité ont du mal à enrayer les attaques récurrentes dans cette région du Sahel burkinabé.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En France, prolongation de la garde à vue de l'influent homme d'affaires français Vincent Bolloré, soupçonné de corruption au niveau de l'obtention par son groupe de concessions portuaires au Togo et en Guinée. Outre le milliardaire de 66 ans, deux cadres de son groupe sont entendus depuis mardi dans les locaux de la police anticorruption en région parisienne. Le responsable du pôle international de Havas et le directeur général du groupe Bolloré. Francis Pérez, président du groupe PEFACO, société spécialisée dans l'hôtellerie et les jeux et très implantée en Afrique, est aussi en garde à vue depuis mardi. Actualité américaine maintenant, fin de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis ce mercredi. Le président français prononcera un discours devant le Congrès américain avant son départ. Le locataire de l'Élysée a été reçu hier à la Maison-Blanche par son homologue américain Donald Trump et les deux leaders y ont tenu une conférence de presse où il a beaucoup été question de l'Iran. Nicolas Pino était sur place pour VOA Afrique. Voici son reportage.
Et c'est avec plus d'une heure de retard sur le programme que les deux présidents se sont présentés face à la presse. Les discussions dans le bureau ovale se sont prolongées en raison notamment de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont le président américain menace de sortir. Donald Trump estime que la précédente administration américaine a été trop généreuse avec Téhéran.
Les États-Unis et la France sont d'accord pour dire que l'Iran ne peut pas être autorisé à développer des bombes nucléaires. Et ce régime doit arrêter de soutenir le terrorisme. Peu importe où vous allez au Moyen-Orient, vous voyez les empreintes de l'Iran dans les problèmes.
Côté français, pour la première fois, Emmanuel Macron évoque sa volonté de négocier un nouvel accord sur le nucléaire, mais qui conserverait l'accord de 2015 en renforçant trois points.
Ce dont nous avons besoin, c'est de couvrir quatre sujets essentiels. Le premier, c'est de bloquer toute activité nucléaire de l'Iran jusqu'en 2025. C'est ce que seul permettait de faire le JCPOA. Le deuxième, c'est de nous assurer qu'à plus long terme, il n'y ait pas d'activité nucléaire iranienne. Le troisième sujet essentiel, c'est de pouvoir stopper les activités balistiques de l'Iran dans la région. Et le quatrième point essentiel, c'est de créer les conditions d'une stabilité politique dans la région et donc de mieux contenir la domination iranienne et ses positions en Irak, en Iran, au Yémen, comme l'influence qu'elle a sur le Liban.
Donald Trump dira d'ici le 12 mai prochain s'il certifie ou non l'accord de 2015 qui avait été conclu après des années d'âpres négociations entre l'Iran et le groupe 5+1, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie.
Merci Nicolas Pino. Réaction en Europe, l'accord actuel sur le nucléaire iranien fonctionne et doit être préservé. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Actualité américaine toujours, le président américain Donald Trump a exhorté Pyongyang mardi à éliminer tout son arsenal nucléaire avant un sommet très attendu avec le dirigeant nord-coréen. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Le président Donald Trump a déclaré que la Corée du Nord devrait se débarrasser de ses armes atomiques. Il a annoncé en mars dernier qu'il acceptait une invitation à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'ici juin. « Je pense que ça va être très positif », a laissé entendre hier le président américain à propos de ce sommet inédit. « Depuis 25 ans, les gens se sont engagés dans des tractations et rien ne s'est passé. Et maintenant, beaucoup de choses se passent », a ajouté M. Trump. Il a salué l'attitude du dirigeant nord-coréen estimant qu'il a été ouvert et a eu un comportement honorable. Le chef de la CIA et probable futur secrétaire d'État, Mike Pompeo, s'est rendu dans la capitale nord-coréenne pendant le week-end de Pâques. D'après Donald Trump, je cite, il a eu une bonne rencontre avec Kim Jong-un.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.